VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce jeudi 28 janvier 2016. À la une ce soir.
Laurent Gbagbo face à la Cour pénale internationale.
Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable?
Je plaide non coupable.
L'ancien président ivoirien a plaidé non coupable à l'ouverture de son procès, mais la procureure affirme pouvoir établir sa culpabilité.
Un double attentat suicide fait plusieurs morts dans l'extrême nord du Cameroun. En Centrafrique, le second tour de la présidentielle, désormais fixé au 14 février. Crise politique à Bissau. La justice tranche contre les 15 députés du parti au pouvoir expulsés de l'Assemblée.
Le Pentagone se prépare pour une éventuelle campagne contre Daesh en Libye.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
À l'ouverture de leur procès devant la CPI, Laurent Gbagbo et son co-accusé Charles Blégoudé, leader des jeunes patriotes, n'ont pas reconnu les charges retenues contre eux.
Et sur les grandes lignes de ce procès historique, car c'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain comparaît devant la CPI, on écoute Idriss Fall.
L'ancien président ivoirien et son co-accusé Charles Blégoudé, ancien chef des jeunes patriotes, sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Les violences avaient fait plus de 3000 morts. À l'ouverture de l'audience, la procureure Fatou Bensouda a assuré avoir des preuves de leur culpabilité. Messieurs Gbagbo et Blégoudé ont tous les deux plaidé non coupables. Leurs sympathisants ont manifesté devant le tribunal pour exiger leur libération. Depuis Addis Abeba, le chef de la diplomatie ivoirienne Abdallah Albert Troakes Mabri a déclaré que les conclusions de ce procès sont très attendues pour que lumière soit faite, les responsabilités situées et que des condamnations soient prononcées. La CPI est aussi la cible de nombreuses critiques. Ces enquêtes n'ont jusqu'ici concerné que des Africains et sur la Côte d'Ivoire, aucun partisan du président Ouattara n'a jamais été inquiété.
Réaction après l'ouverture de ce procès historique, Stéphane Billon, criminologue de 41 ans, déclare que l'ancien président est innocent de ce qu'on lui reproche.
Nous espérons que le mot justice prendra sa place dans ce procès et que la justice sera rendue de façon équitable, de façon impartiale.
Kassoum Dramé, 30 ans et sans emploi, montre sa main gauche déformée par une cicatrice dans une vidéo de l'AFP. Il est handicapé après avoir reçu 9 balles à l'abdomen, 3 à la main. Il évalue le prix de son pardon à 120 000 euros. Il souhaite recevoir des dommages et intérêts pour les souffrances endurées pendant la crise.
J'ai reçu 9 balles à l'abdomen. J'ai reçu 3 à la main. Il ne peut rien faire. Il s'est handicap. Il veut que M. Laurent Gbagbo, même s'ils vont les juger, moi, je veux qu'il me paye. Tout dégât qu'il m'a fait, moi, je veux qu'il assume ça.
Dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, les avis sont donc partagés. Un dénominateur commun, en tout cas, chacun souhaite que la lumière soit faite sur les événements de 2010-2011 en Côte d'Ivoire.
Je suis là pour regarder le procès de mon président. J'espère bien qu'il serait bien libéré, parce qu'il n'y a pas de preuves contre lui.
Voilà un conflit dans lequel on poursuit un seul protagoniste et pas l'autre.
Je voudrais que justice soit faite. Je voudrais que la lumière soit faite sur cette affaire. Si le procès Gbagbo Laurent, les tueries qui sont effectuées, les crimes qui ont été faits, pour que quand même chacun ça puisse interpeller la conscience de tous les Ivoiriens en général. Et ça va aussi interpeller aussi la conscience des chefs d'État africains aussi, parce qu'aucun crime quand même ne doit rester impuni.
Je pense que la justice va trancher les choses et que la Côte d'Ivoire va retrouver sa vraie stabilité.
Pour Yacouba Doumbia du mouvement ivoirien des droits humains, tant les Ivoiriens que leurs voisins de la sous-région, de même que de tout le continent africain, ont beaucoup à apprendre de ce procès.
Ce procès-là a un rôle aussi éminemment pédagogique, aussi bien pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'ensemble des chefs d'État africains voilà, qui s'accrochent ici et là au pouvoir. Et voilà, et donc la lutte pour le pouvoir qui devient, je vais dire, l'occasion de décimer les populations et autres.
Le procès de Laurent Gbagbo intéresse les Burkinabés qui en font une lecture basée sur les relations actuelles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. À noter que l'axe Ouagadougou-Abidjan n'est pas au beau fixe depuis le coup d'État manqué au Burkina, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et la volonté des autorités ivoiriennes à ne pas extrader Blaise Compaoré. Zoumana Ouenogo.
Dans la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso a payé un lourd tribut. En son temps, les Burkinabés, dans leur grande majorité, soutenaient Alassane Dramane Ouattara. Seulement voilà, au moment où s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, les deux principaux accusés pour les meurtres et viols qui ont eu lieu pendant la crise post-électorale, les données ont changé au Burkina. Et ce, par le coup d'État manqué du général Gilbert Diendéré, qui a eu pour soutien principal Guillaume Soro, selon les écoutes téléphoniques authentifié par l'ancien premier ministre burkinabé, le général Yacouba Isaac Zida. Dans les échanges autour de ce procès, les Burkinabés ne jettent plus systématiquement la pierre sur Laurent Gbagbo. Bien au contraire, ils font un lien entre la volonté de justice du président Alassane Dramane Ouattara pour son pays, la Côte d'Ivoire, et sa réticence à voir le Burkina Faso se faire justice. Les arguments se basent sur le fait de prendre Blaise Compaoré comme hôte et de lui donner la nationalité ivoirienne. Zoumana Ouenogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Attaque au Mali sur la route de Gossi. Des militaires qui escortaient un convoi de véhicules civils sont tombés dans une embuscade ce matin à quelques kilomètres de la ville. Trois soldats maliens ont perdu la vie. Sachez par ailleurs que le Parlement allemand a approuvé aujourd'hui l'envoi de 650 militaires au Mali.
Double attentat suicide à Kerawa, dans l'extrême nord du Cameroun. Quatre civils ont été tués et plusieurs blessés près de la frontière avec le Nigeria. On fait le point avec John Lyndon.
Les attentats ont eu lieu à côté d'une école accueillant des personnes qui ont fui les exactions du groupe Boko Haram. Deux femmes sont à l'origine de ces attentats, a précisé un membre du comité de vigilance de Kerawa, qui fait état des 6 morts, dont les 2 kamikazes. En septembre 2015, plus de 20 personnes avaient déjà été tuées dans un autre attentat suicide dans la même localité. Lundi, au moins 37 personnes ont été tuées dans 4 attentats suicides dans le marché du village de Bodo, toujours dans la région. Depuis que les islamistes nigériens ont commencé à attaquer le territoire camerounais en 2013, quelques 1200 personnes, dont 67 militaires et 3 policiers, ont été tuées dans des attaques et des attentats dans l'extrême nord du pays.
En République centrafricaine, le second tour de la présidentielle aura lieu le 14 février prochain. Il sera couplé avec le premier tour des législatives annulé lundi par la Cour constitutionnelle de transition. Le point avec Freeman Sipila.
Selon le nouveau chronogramme publié ce jeudi, la campagne électorale des législatives démarre le 30 janvier pour finir le 12 février. La campagne pour le second tour de la présidentielle s'ouvrira quant à elle le 6 février pour prendre fin également le 12 février. Les 2 scrutins seront groupés le 14 février sur l'ensemble du pays. De nombreuses irrégularités avaient été relevées par la Cour constitutionnelle de transition lors des opérations du 30 décembre dernier. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'annulation des législatives par la haute juridiction. À Bangui, un collectif d'au moins 40 candidats indépendants aux législatives avait souhaité ce matin au cours d'une conférence de presse que les législatives se tiennent dans 60 jours pour permettre aux candidats de se réorganiser. Les 2 anciens premiers ministres Anissé Georges Doléguilé et Faustin Archange Touadéra sont les 2 candidats qui s'affronteront au second tour de la présidentielle. Un peu plus de 1600 autres candidats devront répondre le premier tour des législatives annulées. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Guinée-Bissau, un tribunal régional exhorte les 15 membres expulsés du PAIGC à respecter la perte de leur mandat, une mesure qui avait été prise pour permettre à l'Assemblée nationale populaire de fonctionner normalement. Correspondance de Noa Mankali.
Dans un communiqué dirigé au groupe des 15 et aux élus du parti de la rénovation sociale PRS, leader de l'opposition avec 41 députés à l'Assemblée nationale populaire, le juge Injolano Indi a appelé au plein respect de la décision du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire qui a mis fin au mandat des 15 députés à l'Assemblée nationale populaire pour permettre la création des conditions pour le fonctionnement régulier de l'institution. Le juge a également ordonné aux 15 d'éviter toute action qui peut mettre en danger l'intégrité physique et la vie des autres membres de la nation et des citoyens et de leurs biens. La décision vient en réponse à la suite d'une demande dressée par le président de l'Assemblée nationale populaire, Cipriano Gassama, après que les 15 dissidents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, aient refusé l'ordre d'abandonner l'Assemblée nationale populaire le 15 janvier dernier, quand ils ont été remplacés par leurs suppléants.
Des militaires américains sont sur le terrain en Libye, cherchant d'éventuels partenaires pour ce qui pourrait être bientôt une campagne étendue contre le groupe État islamique. Selon le secrétaire de presse du Pentagone, Peter Cook, Washington envisage des options militaires et autres conformément à l'évolution de la situation en Libye. Nous voulons être prêts, comme le département de la défense veut toujours l'être, au cas où Daesh en Libye deviendrait une menace plus grave dans ce pays. Selon le Pentagone, le contingent américain actuellement en Libye est très réduit et a obtenu l'aval des autorités libyennes. En novembre dernier, les États-Unis ont mené une frappe en Libye, tuant Abu Nabil, soupçonné d'être le principal leader local du groupe État islamique.
Au moins 54 civils, dont 15 enfants, ont péri en 24 heures dans les frappes russes sur les zones tenues par le groupe État islamique et la rébellion en Syrie. Et les pourparlers de paix sur la Syrie sont censés s'ouvrir demain à Genève, mais rien n'est certain quant à la participation des groupes clés de l'opposition. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Au Burkina Faso, un communiqué du Conseil des ministres a indiqué des déficits céréaliers dans un tiers des 45 provinces, dont 15 sont déficitaires, 10 en situation d'équilibre et 20 excédentaires. Le gouvernement du président Roch Kabore envisage un plan de soutien aux populations vulnérables. La production prévisionnelle totale des autres cultures vivrières s'établit à 791 904 tonnes, soit une hausse de 13,86% comparativement à la campagne de 2014 à 2015. Le communiqué note que la production des cultures de rente, dont le coton, est restée stable par rapport à la campagne précédente avec 1 567 220 tonnes. Téléphonie mobile en Afrique, Orange rachète à l'Indien Bharti Airtel, deux opérateurs de téléphonie mobile au Burkina et en Sierra Leone. Le montant de la transaction serait entre 600 et 800 millions d'euros avec respectivement 35 et 50% de parts de marché pour les deux filiales. Et enfin, la vidéo à la demande en Afrique se développe. La compagnie de distribution de films Iroko TV, associée depuis décembre au groupe français Canal+, a annoncé lundi la signature de contrats à hauteur de 19 millions de dollars, représentant des apports en capitaux et du développement de contenu. À la différence du géant américain Netflix, qui est devenu depuis peu son concurrent direct en Afrique, Iroko TV est spécialisé dans du contenu local, produit essentiellement par Nollywood, la deuxième plus grosse industrie du film au monde.
La Minute Éco, merci Arzuma.
L'actualité sportive avec Eric Manirakiza. On va parler foot tout à l'heure, mais d'abord, Cannes de handball, les demi-finales, c'est demain et le Maghreb domine la compétition.
Exactement, Gabi, on connaîtra les finalistes ce vendredi dans la soirée entre l'Algérie et la Tunisie à 16h30. Le second, c'est entre l'Égypte et l'Angola à 19h. Le vainqueur de la finale sera directement qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio, tandis que les trois premiers valideront leur ticket pour le Mondial 2017 en France.
Football, le championnat d'Afrique des Nations atteint les quarts de finale, Eric.
La compétition se déroule au Rwanda, le pays des mille et une collines. Le 30 janvier à Kigali, les abeilles du Rwanda vont tenter de piquer les léopards de son voisin, la RDC. Le deuxième quart aura lieu le même jour à Houyé entre les lions camerounais et les éléphants ivoiriens. Le 31 janvier à Kigali, la Tunisie croisera le fer avec le Mali, tandis qu'à Houyé, la Guinée jouera contre les Chipolopolo de la Zambie.
À deux ans de la Coupe du Monde, les Russes ne montrent aucun intérêt pour le football.
Oui, le problème est sérieux, Gabi. Les Russes snobent le foot, stade à moitié vide, audience médiocre et résultat de l'équipe nationale décevant. Alors que la Russie organise la Coupe du Monde en 2018, le football peine à séduire les foules.
Et l'ambiance n'est pas trop bonne au Bayern de Munich.
Ça caracole en tête du championnat, mais l'ambiance au sein de l'équipe n'est pas bonne, comme vous le dites. Cette situation serait liée aux nombreuses blessures qui handicapent le club, mais aussi le rapport entre Guardiola en partant cet été et son équipe.
On a du temps, Eric, pour parler de l'Open d'Australie, un duel au sommet.
Oui, Novak Djokovic et Roger Federer se sont affrontés en demi-finale de l'Open d'Australie dans le 45e duel de leur carrière. Avant ce rendez-vous, les deux champions étaient à égalité, 22 victoires partout, mais Djokovic en sort le plus fort. Il a dominé aujourd'hui son rival en 4-7.
On a 10 secondes pour parler de la NBA.
Oui, Golden State a écrasé les Mavericks et San Antonio a étrié les Rockets. Cleveland a battu les Phoenix et Cleveland reste premier dans la conférence Est, Gabi.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriac et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Notre première escale ce soir, Morgane, c'est le Niger.
Moins d'un mois avant le premier tour de la présidentielle prévue le 21 février. La coordination exécutive nationale de l'Observatoire du processus électoral dénonce la propagande électorale avant l'ouverture de la campagne. Visée, le chef de l'État, Mamadou Issoufou, qui espère remporter un second mandat à la tête du pays. Nicolas Pineau a joint Ali Drissa, coordinateur du ROTAB.
On n'a jamais aussi vécu de fortes tensions à la veille d'élections dans notre pays que ces derniers temps. Ça, c'est ce qui nous inquiète et nous voyons bien aujourd'hui le cours des événements nous inquiète dans le sens que nous disons que si nous ne sonnons pas l'alerte, nous risquerons d'aller dans l'abîme et notre pays risquerait bien fort de se retrouver avec une crise post-électorale.
Qu'est-ce qui bloque concrètement?
Ce qui aujourd'hui bloque, c'est carrément la violation des textes de la République en matière électorale. Aujourd'hui, nous constatons que le pouvoir, notamment, s'implique énormément dans la campagne électorale en violation de ces textes. Nous constatons l'implication de couches qui ne sont pas destinées à faire la politique, notamment la chefferie traditionnelle. Les chefs religieux aussi sont en train d'être impliqués dans ce processus électoral en violation des textes en vigueur. Voilà un peu ce qui nous a amené à dire aux autorités de pouvoir arrêter cette tendance à pouvoir ne pas respecter les textes de la République. Si vous suivez la télévision nationale dans notre pays, vous allez comprendre que ça ne joue que pour seulement un seul clan, notamment le clan au pouvoir.
Est-ce que le problème majeur n'est pas l'exclusion d'1,5 million d'électeurs faute d'accord entre les partis politiques?
Non, tout le monde sait que c'est toujours cette manière que les politiciens utilisent pour pouvoir frauder. Et quand il s'agit de vote par témoignage, comment comprendre qu'un Nigérien en âge de voter ne puisse pas avoir une pièce d'identité, ne puisse pas avoir un acte de naissance? Non, pour nous, il est fondamental qu'il n'est pas question d'accepter cela tant que la loi est claire. Aujourd'hui, le code communautaire de la CEDEAO dit que dans les 6 mois, il ne peut pas avoir de révision de la loi électorale s'il n'y a pas consensus. Et du fait qu'il n'y a pas consensus là-dessus, nous pensions bien qu'on doit garder le statu quo, c'est-à-dire le texte qui a été consensuel sans le vote par témoignage.
Ali Drissa, coordinateur du ROTAB.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cap sur le Burundi pour parler de l'incendie qui a ravagé le principal marché de Bujumbura il y a 3 ans. Après avoir perdu leurs marchandises et leur argent, certains commerçants qui ont été indemnisés par les assurances se plaignent tout de même. La majorité qui n'était pas assurée est restée sur la paille. Ces commerçants de la capitale vivent aujourd'hui une vie intenable. De son côté, la mairie affirme ne pas être outillée pour leur venir en aide. Bujumbura, une correspondance de Christophe Rounziza.
Tout autour de l'ancien marché central de Bujumbura, qui a pris feu le 27 janvier 2013, il y a donc 3 ans jour pour jour, des femmes vendent des tomates, fruits, légumes et d'autres denrées alimentaires. Si certaines payent des impôts à l'État, les administratifs demandent que ces commerçants de la rue déménagent vers un autre marché au nord de la capitale. Ces femmes ont perdu leur argent le jour de l'incendie du marché central, tout comme les hommes qui avaient des stands dans ce marché générateur de revenus, mais qui n'étaient pas assurés. Cette femme, qui a 5 enfants, affirme qu'elle ne sait pas comment lier aujourd'hui les deux bouts du mois. Elle est devenue malade après l'incendie du marché qui lui a brûlé plus de 15 000 $ américains.
J'ai passé au moins 4 mois parce que j'étais vraiment tombée malade jusqu'à là où j'ai tombé même évanouie d'être hospitalisée dans une réanimation. Les marchandises ça a été au moins de 22 millions et l'argent dessous c'était au moins 8 400 000.
Cette autre femme a changé son mode de vie depuis que ses marchandises et son argent ont été brûlés dans ce marché central de Bujumbura.
Bon, ma vie a changé beaucoup. Beaucoup. Maintenant, on est comme des handicapés. On est là, on s'assoit, on se réveille le matin. Tu ne sais pas où tu vas aller, tu ne sais pas où tu vas commencer, tu ne sais pas où tu vas... Je ne sais pas. Tu regardes à côté, tu regardes à droite. Il y a des blocages. On est là, on est comme des handicapés ici. On mangeait 3 fois, on ne mange plus 3 fois. On a changé même les écoles des enfants. École à moins cher. Je suis vraiment dépassée.
Pour le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Molima, les commerçants qui étaient assurés ont déjà été dédommagés, tandis que les personnes non assurées, leur cas devra être analysé par la deuxième vice-présidence de la République.
Ce marché avait une capacité d'accueillir 2500 commerçants à l'époque, mais on s'est retrouvé avec un nombre imposant, ce qui a fait qu'il y avait un problème après l'incendie. Alors, il y avait des commerçants qui, normalement, s'étaient affiliés dans les assurances. Ces commerçants ont été indemnisés par les différentes société d'assurance. Ces autres qui étaient là d'une façon qui n'est pas légale, je ne pourrais pas vous dire leur sort.
Freddy Molima estime qu'un centre d'affaires sera érigé bientôt à la place de ce marché central de Bujumbura. On ne connaît pas encore si ce sinistre était d'origine criminelle ou accidentelle. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Nous partons maintenant au Mali. Coup de projecteur sur le YALI, programme initié par le président américain Barack Obama à l'attention des jeunes leaders africains. De retour des États-Unis, les participants organisés en association ont fait de la santé publique et le renforcement des capacités des jeunes leur cheval de bataille. Leurs projets sont appuyés par l'ambassade américaine. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, est parti à la rencontre de ces leaders en herbe.
YALI est une initiative du président des États-Unis, Barack Obama, ayant pour but d'investir dans la prochaine génération des dirigeants africains. Le président Obama a lancé ce programme en 2010 pour soutenir les jeunes leaders africains qui contribuent au développement de leur communauté, en forçant la bonne gouvernance, en améliorant les conditions de paix et de sécurité en Afrique.
Je suis Bernadette Maïpé et j'ai bénéficié de la bourse YALI Mali en 2014. En fait, YALI Mali, c'est une association de tous les anciens bénéficiaires de la bourse Washington Mandela Washington Fellowship. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement de notre activité sur la santé. C'est un grand projet qui prend en compte toutes les questions de santé au Mali et qui va se passer non seulement dans une zone dans les zones urbaines que dans les zones rurales.
L'initiative YALI Mali est soutenue par le Conseil national de la jeunesse du Mali, dont le président est Mohamed Salia Touré.
Cette initiative qui doit soutenir quand on sait aujourd'hui que notre pays a besoin vraiment de beaucoup plus d'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Il faut dire que l'entrepreneuriat constitue un ascenseur social aujourd'hui que tout le monde peut prendre tant le niveau requis est bas. Il suffit d'avoir une volonté travailleuse et d'être engagé et pour pouvoir se frayer son chemin. On ne peut pas attendre tout de l'État. L'État est démuni, l'État ne peut pas employer tout le monde.
Selon l'ambassadeur des États-Unis au Mali, la démocratie et le développement ne peuvent aller sans un citoyen bien formé et informé. Sa présence à la cérémonie cérémonie traduit la volonté de la coopération américaine d'aider les citoyens des pays amis à renforcer leurs capacités et à assurer leur propre prise en charge à travers une participation de qualité à la vie active de leur pays. Paul Folsby, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali.
De tous les gens, et c'est vrai, nous avons un programme très très fort ici, avec plusieurs programmes, et je suis sûr que dans l'avenir, nous avons des autres projets pour faire aussi. Une de les clés, c'est l'idée de l'entrepreneuriat, parce que nous devons assurer qu'il y a toujours un programme avec l'argent et la capacité de continuer, la continuation d'un programme.
Les bénéficiaires de Yali ont mis en place l'association Yali Mali. Ils viennent de lancer deux projets dans le domaine de la santé. Ils espèrent travailler avec le gouvernement malien. Bernadette Maipé.
Étant donné tous les problèmes d'emploi que nous avons dans ce pays, il faut que nous essayions d'être un peu plus entrepreneur et que nous essayons de plus nous diriger vers l'entrepreneuriat. Et si j'ai un appel à lancer à nos autorités publiques, à l'État, c'est de vraiment créer un climat favorable à l'entrepreneuriat jeune, car le développement du pays peut également être basé sur cette phase du développement.
C'est dans cette optique que l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Bamako appuie les anciens participants au prestigieux programme du président Obama dans la réalisation de leur présent projet. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le virus Zika se propage de manière explosive sur le continent américain, selon l'Organisation mondiale de la santé. Déjà, 1,5 million de personnes sont contaminées au Brésil, le pays le plus touché. L'OMS convoque une réunion d'urgence lundi 1er février pour que l'expansion du virus soit limitée. Maëlys Hegel a joint Alena Koskalova de Médecins sans frontières en Slovaquie. Elle est spécialisée dans les maladies tropicales.
Donc, le virus Zika, c'est un virus qui appartient à la même famille que le virus de la fièvre d'Inde. Et en fait, il se propage par le moustique de type Aedes, qui est en fait très répandu en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et centrale.
Pourquoi est-ce que c'est chez les femmes enceintes que ce virus est le plus dangereux?
Normalement, en fait, les gens qui sont infectés, la plupart de ces gens sont asymptomatiques. Et même ceux qui présentent des symptômes, ce sont d'habitude des symptômes qui sont très légers. Donc, c'est la fièvre, l'éruption cutanée, des douleurs musculaires, les céphalées. Mais en fait, ce qui a été décrit récemment en fait, au Brésil, c'est que ce virus potentiellement peut causer en fait, une malformation congénitale. Donc, il peut être dangereux pour le fœtus. En fait, la relation causale n'est pas encore établie, mais on pense que ce virus peut être dangereux pour les femmes enceintes, pour ce risque de malformation congénitale.
Quels sont les moyens de prévention?
En fait, il n'existe pas un traitement spécifique pour le virus Zika, il n'existe pas un vaccin. Donc, pour cela, pour protéger, il y a plusieurs possibilités. Donc, surtout pour les femmes enceintes, nous pouvons conseiller en fait ne pas voyager dans les zones à risque, si c'est possible. Et puis en fait, pour les gens qui se trouvent dans ces zones à risque, on conseille surtout la prévention contre les piqûres de moustiques, donc utiliser des repellents pendant toute la journée, parce que les moustiques Aedes piquent pendant toute la journée. Et puis aussi dormir sous la moustiquaire.
Est-ce que c'est le même moustique qui transmet le paludisme et Zika?
Non, en fait, le moustique Aedes transmet, par exemple, le virus de la fièvre d'Inde ou chikungunya, mais ce n'est pas le même type de moustique qui transmet le paludisme. Le virus qui transmet le paludisme s'appelle Anopheles.
Docteur Alena Koskalova, de Médecins sans frontières en Slovaquie.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde de Joselle Morissin. Présentation Morgane Guiriac et chez Robin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Bien sûr, on maintient la conversation sur Facebook où vous pouvez partager vos impressions, poser des questions. Nous attendons aussi vos photos, vos vidéos, pourquoi pas. Et bien sûr, on est ensemble 24 sur 24 sur notre site internet voaafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.